de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 24 mai 1995.
Bien. redécouvrir ce point de vue-là. Nous allons maintenant, après avoir essayé de préciser cette pointe ultime de ma connaissance métaphysique, l'être en acte, qui est fin de ce qui est, et d'avoir vu les différentes explicitations de ce qui est, et son ultime explicitation, le mouvement, nous allons maintenant regarder le problème de l'un et du multiple. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le traiter. C'est plus facile, c'est pour ça que c'est plus rapide. Mais le problème de l'un et du multiple est extrêmement important pour bien distinguer l'aristotélisme du platonisme. C'est là la rencontre. La rencontre et l'opposition. Pour Platon, l'un est au-delà de l'être. Et c'est cela qui caractérise le platonisme. Et c'est très important de bien saisir cela. L'un est au-delà de l'être. Pourquoi ? Parce que l'être est identifié à l'intelligibilité. Et voyez, tout l'ontologisme est là. Voyez, chez Leibniz, tout ce qui est intelligible existe. Intelligible existe. Donc, le possible est intelligible, donc il existe. Ça va très loin, ça. Et c'est là où on voit comment l'ontologisme peut aboutir à un idéalisme. Ce qui est intelligible n'existe pas nécessairement. Autre chose, et ça revient, le quo et le quod, vous voyez. C'est que l'acuité est intelligible, mais l'acuité est saisie à partir de la réalité existante. Elle n'est pas, au sens strict, impossible, quelque chose qui pourrait exister. Elle existe. Mais mon intelligence la distingue de ceci. Et je vous ai toujours dit en critique qu'il fallait partir du jugement pour saisir l'appréhension, et non pas l'appréhension pour saisir le jugement. C'est là l'aspect très subtil qu'il ne faut jamais oublier. Oui. Alors, l'analogie avec la couleur et la lumière, c'est très vrai. Mais il faut saisir la distinction entre l'acte et la substance, toujours, la détermination. Et le point de vue ultime de la fin, ça se tient dans la réalité. C'est la même réalité, mais c'est distinct. Dès que je connais, Platon confond distinction et séparation. Ce qu'on retrouvera en théologie avec Don Scott, à cause d'Avicenne et donc à cause de Platon. Le retour à Avicenne avec Don Scott. Et ce retour à Avicenne avec Don Scott provient du fait de la condamnation de Thomas d'Aquin par la Sorbonne. Et historiquement, et ça a joué un rôle très important, si le thomisme, j'allais dire, si, pas le thomisme, mais si Thomas d'Aquin, dans sa philosophie et sa théologie est un mort-né. C'est à cause de la Sorbonne. Qui a condamné Thomas d'Aquin de revenir, de quitter le croyant pour le païen. Le croyant, c'est Avicenne. Il est musulman. Et le païen, foncièrement. Et vous verrez des applications politiques constantes. Ça. Je n'entre pas dans ce point là, mais c'est significatif. La politique exprime quelque chose de particulier dans son application. Mais alors là, historiquement, c'est très net. C'est que la condamnation de Thomas d'Aquin par la Sorbonne a fait que tout de suite après, on n'a pas suivi entièrement Thomas d'Aquin. On est revenu à Vicennes. Et confondre distinction et séparation, ça, c'est platonicien, c'est avicénien. Avicenne chosifie l'essence. Mais, alors qu'on distingue l'essence de l'existence, qu'on peut séparer dans la réalité quidité et exister. Séparer, attention, distinguer. Il n'y a pas de quidité qui existe toute seule. Elle existe toujours d'une manière individuelle. Et donc, le principe est saisi comme principe. C'est pour ça que le principe n'existe pas en soi. C'est l'intelligence qui le saisit. Pour Platon, au contraire, le point de vue de l'intelligibilité s'identifie avec l'être. Donc, distinction et séparation s'identifient. Tout ce qu'on distingue implique une séparation. Par le fait même, le point de vue de l'un est au-delà de l'être. Pourquoi ? Parce que l'un n'implique pas de division. Il est sans division. Donc, il est ce qui a d'ultime, de dernier. Il est au-delà de toute division. Il est indivisible. Tandis que l'être est divisible. Si l'être est divisible, bien, l'un est au-dessus. L'indivisible est au-dessus du divisible. L'indivisible exprime quelque chose de plus profond que le divisible. Et je crois que c'est toujours de cette manière-là qu'on doit comprendre chez Platon ce dépassement de l'être par l'un. Donc l'un, pour Platon, est premier. L'être est second. Je connais l'être par l'un, pour Platon. Ne tombez pas dans le platonisme, voyez bien la tentation. Et voyez bien comment on peut passer de l'être à l'un et considérer que l'un est antérieur à l'être. Si vous identifiez l'intelligibilité qui est propriété de l'être, mais qui n'est pas l'être, alors vous distinguez, vous identifiez propriété et substance. Et par le fait même, l'un sera antérieur à l'être. À l'opposé de l'un, c'est le multiple. Le multiple, c'est ce qui est divisé. Le multiple est engendré à partir de la division. Et vous voyez là tout de suite la naissance d'une pensée dialectique à la différence d'une pensée analogique. La pensée analogique est aristotélicienne, la pensée dialectique est platonicienne. Si l'un est premier, l'un s'oppose au multiple. Et vous avez tout de suite l'opposition dialectique entre l'un et le multiple. quand vous avez une séparation entre, je dis bien pas seulement une distinction, une séparation entre le bien et l'un, ceci va apparaître parfaitement chez Plotin. Plotin, disciple de Platon, considérant que Platon, c'est un prophète, le divin Platon, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, le divin Platon. Aucun aristotélicien n'a dit le divin, le divin Aristote. Aucun. Tandis que le néoplatonisme divinise Platon. Et Platon, c'est l'inspiration.
Ce n'est pas dans certaines conclusions, parce qu'il peut y avoir des conclusions.
c'est savoir si cette pensée est au niveau dialectique ou au niveau analogique. Parce que si vous allez jusqu'au bout de la critique, vous voyez qu'il n'y a que deux formes de pensée intellectuelle au plan philosophique. C'est la dialectique et c'est l'analogie. Et là, vous voyez, c'est les rapports entre l'appréhension et le jugement, fondamentalement. Ça, c'est très important. Et ce problème, alors, ressort avec une très grande force avec le problème de l'un et du multiple. Donc, Platon est le premier à affirmer que l'un est au-delà de l'être. L'être est donc relatif à l'un. Plotin reprend cette intuition fondamental de Platon. Et pour Plotin, c'est l'un qui est au-dessus de tout. Et que l'un est identique au bien. Alors, il y a tout un raisonnement chez Plotin qui est extrêmement intéressant. C'est peut-être le raisonnement le plus fondamental chez Plotin. C'est de voir comment l'un et le bien s'identifient. Affirmer, justifier. Le rôle du disciple, c'est de justifier ce que Platon avait dit un peu d'une manière intuitive. Alors, je vous mets ça en parallèle parce que c'est quand même très important au point de vue de l'histoire de la pensée. Un et le bien. Et je crois, voyez, je crois que Platon essaie de préciser les deux par le beau. Là, vous avez le banquet. Comment le beau conduit au bien et comment le beau est lié à l'un. Le métaxus, c'est le beau. Je crois. C'est difficile chez Platon parce que c'est toujours très souple comme pensée. Mais je crois que c'est le dialogue du banquet. C'est un dialogue que tous doivent avoir lu au bout de 3 ans de philosophie. Connaître un peu Platon. Parce que c'est Platon qui permet de saisir tout le grand développement de la philosophie européenne. Et vous avez l'analogue dans l'Inde. Ça, je m'appuie sur le témoignage d'Olivier Lacombe, qui est grand spécialiste de l'Inde. On a causé plus d'une fois là-dessus. Il m'a dit, il y a toujours les deux aspects. On trouve du côté grec Platon et Aristote, et du côté de l'Inde, on trouve l'analogue. On retrouve les deux grands aspects. Un aspect platonicien, un aspect aristotélicien. Or, quelle est la différence ultime entre les deux? C'est que l'un, pour Platon, est au-delà de l'être. L'être égale l'intelligible. Et le bien, c'est le point de vue ultime, ce qui est la fin. Ce qui est ultime. Et je crois que c'est par le beau que Platon fait le lien entre les deux. Et alors, il y a le Parménide qui reprend l'un comme ce qui est ultime. Et le Parménide s'achève dans tout le point de vue de la dialectique et de la participation. Participation et dialectique vont de pair. Alors là aussi, il faut avoir lu une fois le Parménide, qui est beaucoup plus dur. Le banquet se dit très facilement, n'est-ce pas, ça se lit, parce que c'est un banquet. Donc c'est facile à lire, et que tout le monde roule sous la table à la fin du banquet, et seul Socrate demeure. Alors celui qui lit le banquet demeure avec Socrate, et ne roule pas sous la table. un lien très curieux entre les deux. C'est pas explicite, hein, ni chez Platon, ni chez Plotin. Mais on doit regarder que le problème foncier du néoplatonisme, c'est affirmer la primauté de l'un au-dessus de tout. Et après de comprendre comment l'un et le bien s'unissent et sont au-dessus de tout. La première hypostase chez Plotin, c'est l'un et le bien. Ce qui est premier, l'un et le bien, unis dans le dynamis. La deuxième hypostase, c'est le nous, donc l'intelligence et l'être.
Ces points de vue-là qui fait que de fait il y a identification
C'est vrai, au point de départ, vous voyez, identifier l'être et la propriété de l'être. Ce que dira Aristote, l'intelligible, c'est la propriété de l'être. Mais ça ne semble pas grand-chose, puisqu'il y a un lien de nécessité entre les deux. S'il y a un lien de nécessité entre les deux, c'est pas d'importance. Ah oui, faisons attention, le lien de nécessité est au plan logique et n'est pas au plan réel. La propriété n'existe que si un être. Oui, l'intelligence n'existe que si un être. Mais l'être, lui, peut exister au-delà de l'intelligibilité. Et qu'est-ce qui montre ça? C'est l'être en acte et l'être en puissance. L'être en puissance n'existe pas, il est intelligible. Donc l'intelligibilité ne s'identifie pas avec l'être. Donc là, il y a un problème fou. C'est pour ça que quelqu'un comme, c'était un théologien, un philosophe à Louvain, Remacher, de toute la philosophie, c'est le problème de l'un et du multiple. Si je suis platonicien, je suis tout à fait d'accord que le problème foncier de la philosophie, c'est l'un et du multiple. Si je suis historien, je constate que ce problème de l'un et du multiple, puisque il naît avec le platonisme, comme le problème fondamental, et que le néoplatonisme est la trame dominante de tout le développement de la philosophie européenne, le problème de l'un et du multiple est donc, au point de vue extension, le problème fondamental. C'est important, ça, de saisir ça. C'est pour ça qu'on pourrait, j'avais essayé une fois, connaître. le comment, la manière d'exister, l'emporte sur le point de vue du DST. On comprend comment la dialectique l'emporte sur l'analogie. Vous voyez, alors ici, parallèlement à ça, comment Thomas d'Aquin, en théologien, regarde le problème de Dieu. Quelle est la première modalité de que saint Thomas précise sur Dieu? C'est la simplicité. Et Thomas d'Aquin, regardez dans la Somme, mais l'un.
Absolument simple. Tandis qu'au contraire, si je confie
nu. Et la manière de toucher ce contenu, je dirais, premier attribut de Dieu, l'infini. Puisque c'est par la négation que j'atteins Dieu. Et donc, dans l'infini, c'est la négation qui domine. Vous voyez, ce primat de la négation, ou le primat, au contraire, de la détermination. Alors là, c'est Thomas d'Aquin et Don Scott. Et c'est très curieux de retrouver, vous voyez, ces problèmes constamment. La pensée aristotélicienne, la pensée platonicienne. Donc, essayez de comprendre au moins comment Platon pose le primat de l'un sur l'être. Comment Plotin l'explicite, j'allais presque dire le schématise, en montrant comment l'un est au-dessus de l'être. L'être émane de l'un, pour Plotin. L'être émane de l'un. La source de l'être, c'est l'un. Parce que l'un s'identifie à la bonté. Là, en réalité, la source de l'être, c'est le bien. Identique à l'un. Et le retour de l'être vers le bien se fait par l'un. Et c'est là, toute la question de Plotin, c'est le point de vue de l'émanation de l'un vers la seconde hypostase, puisque la seconde hypostase émane de la première. Et en même temps, la seconde hypostase retourne à la première. Alors il y a l'émanation et le retour, l'egressus et le reditus. L'être provient de là. Si c'est la source première de tout, c'est le bien lié à l'un. Donc le bien est source de l'être et le retour de l'être vers le bien permet de comprendre que le retour dernier, c'est l'un. Egressus, le reditus, le retour de l'être vers le bien permet de comprendre que ce retour de l'être vers le bien, c'est le retour de l'être vers l'un. Aristote, en face de Platon, et un des points sur lequel Aristote tient le plus par rapport à Platon, c'est de montrer que l'un est propriété de l'être. Donc si l'un est propriété de l'être, l'un est second par rapport à l'être. L'intelligibilité de l'un provient de l'être. L'un est propriété de l'être, donc il est second. Et par le fait même, c'est ça qui est intéressant, et ce que Obank n'a pas compris, par le fait même, la philosophie première est bien une science. Parce qu'elle conclut que l'un est propriété de ce qui est, en tant qu'il est. Or, le propre de la connaissance scientifique, c'est de découvrir le lien entre ce qui est premier et ce qui est second. La propriété par rapport à ce qui est source de cette propriété. Donc, affirmer que l'un propriété de l'être science, d'une connaissance scientifique, c'est de découvrir la propriété de ce qu'on considère. Qu'est-ce qu'on considère en métaphysique, ce qui est en tant qu'il est? Et quelle est la conclusion propre de la philosophie première? C'est de dire que l'un est propriété de ce qui est en tant qu'il est. Et quel est le métaxu qui me permet d'affirmer que ce qui est en tant qu'il est un? C'est la substance et c'est l'être en acte. Ça, c'est la pensée d'Aristote. Une fois que vous avez saisi ça, vous saisissez toute la structure de la métaphysique d'Aristote. Et vous saisissez tout son point de tout ce qu'il dit dans les seconds analytiques. Et que les seconds analytiques sont bien la structure logique de la philosophie première. Si la philosophie première est la science des sciences, c'est-à-dire la science, la connaissance scientifique la plus parfaite, on ne peut pas aller au-dessus, puisque c'est ce qui est. Et rien n'est au-delà de l'être. Cette connaissance scientifique a comme conclusion de dire que l'un est propriété de ce qui est. Mais quel est le métaxu qui me permet d'affirmer que l'un est propriété de ce qui est en tant qu'il est? C'est le principe propre de ce qui est, la substance et l'acte. Or, l'être est premièrement substance. Si l'être est premièrement substance, la substance est indivisible. Elle est le principe. Selon la forme, elle est indivisible. Donc, elle est un. Donc, l'être en tant qu'être a comme propriété l'un. L'être en acte est indivisible. Il est ultime. Il ne peut pas être divisé. Et donc, puisque l'un, puisque l'acte est fin de ce qui est, ce qui est en tant qu'il est un. Mais là, c'est toute la structure scientifique de la philosophie première chez Aristote. C'est dit chez Aristote. Mais c'est dit avec toute une enquête multiple et diverse à cause de la difficulté. C'est pas commode de critiquer Platon. C'est pas commode de montrer quelle est la confusion la plus fondamentale chez Platon. La confusion la plus fondamentale chez Platon, c'est l'exaltation de la négation en affirmant que l'un est au-dessus de l'être. Mais la statue de Nabucodonosor au pied d'argile, la statue de Nabucodonosor, philosophiquement parlant, c'est la République. C'est le livre le plus magistral de toute la philosophie de Platon. Et on peut dire de toute la philosophie. C'est la République. Ce géant que représente la République a des pieds d'argile. Pourquoi? Parce que l'un est au-dessus de l'être. Et c'est ça qu'Aristote a saisi. Et c'est là où on saisit la pointe la plus profonde de tout l'aristotélisme. Enfin, il faut avoir lu une fois dans sa vie la République de Platon. Autant possible deux fois. Au terme de sa philosophie, au terme de sa théologie. C'est un livre magistral. Toutes les erreurs sont contenues dedans. Donc c'est un livre magistral, c'est extraordinaire. Mais quand vous voyez que Platon aboutit à dire que toute la politique ne repose pas sur la famille, mais sur l'individu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est l'individu qu'on exalte. Ce n'est plus la famille. Et quand il voit que l'idéal, c'est la communauté de toutes les femmes. que l'idéal pour Platon, c'est l'armée. Un État totalitaire, c'est toujours l'armée. Qu'est-ce qui a fait la force du communisme ? C'est l'armée. C'est ça qui a permis de tenir. Et quelle est la dernière chose qui va se détruire du communisme ? C'est l'armée. Ça, c'est Platon. Mais l'aspect de la défense devient la structure. L'irascible remplace l'intelligence. C'est Platon. Au point de vue politique. Et tout ça provient de l'erreur de la primauté de l'un sur l'être. Alors ça, c'est le génie d'Aristote d'avoir saisi ça. Et de l'avoir saisi avant Plotin. Pour nous, c'est relativement facile. Parce que comme Plotin est disciple d'Aristote, et comme Plotin est disciple de Platon, on voit les erreurs de Platon en gros. Chez Plotin, c'est l'intérêt de Plotin. On voit l'hypostase première, l'homme et le bien. L'hypostase seconde, l'intelligence et l'être. Et donc on voit que l'un est source de l'être. Ça c'est gros. Platon n'a jamais dit ça. Mais c'est le disciple qui dit ça. Et qui manifeste en effet l'erreur de Platon d'avoir mis l'un au-delà de l'être. Donc l'être dépend de l'être. Donc l'être dépend de l'un. Et l'un s'identifie au bien. Parce que l'un tout seul n'expliquerait pas l'émanation et le retour. Mais, alors je crois qu'en effet, là je donne raison à Rémaker quand il dit que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème au plan critique fondamental de toute la philosophie européenne.